les enfants de Cronos.
Bonjour à tous, je suis Gilles Baudin et je suis président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis. Et je vous parle de la découverte des arènes au XIXe siècle et de leur exploration. L'achat du terrain des arènes par le comité archéologique de Senlis enfin fait, en 1866, les fouilles se poursuivent immédiatement pour maintenir la sympathie des donateurs. Inspiré des méthodes d'Herculanum, on creuse un tunnel qui suit le mur du podium, c'est-à-dire le mur des premiers gradins, pour trouver au plus vite l'issue vers la ville, c'est-à-dire qu'on va évoluer vers l'est. Bientôt, il faudra trouver de nouveaux fonds pour poursuivre le dégagement et payer les ouvriers. On tente d'attirer l'attention sur le monument. Le 20 mai 1865 déjà, dans son numéro 423, Le Monde Illustré, c'est un journal parisien à grand tirage, une sorte de Paris Match de l'époque, publie un article pleine page avec une gravure des fouilles due au crayon de Gaston de Pontalba. La riche famille de Pontalba était établie à Senlis, mais aussi à Paris, et avait fait fortune aux États-Unis, et elle compte plusieurs membres qui adhèrent au comité archéologique. L'aquarelle originale est conservée dans les réserves du musée d'art et d'archéologie aujourd'hui. Elle avait été exposée il y a quelques années. Le comité publie aussi, dès 1866, les premiers comptes rendus des fouilles agrémentés de dessins, de plans dépliants et de coupes, ainsi que des reproductions graphiques des objets découverts. Certains de ces dessins sont l'œuvre de l'abbé Gérin. Ils sont toujours conservés par la Société d'Histoire et d'Archéologie et ils sont datés du 1er mai 1865. On reste impressionné par la rapidité d'avancement des travaux. J'y reviendrai. Monsieur de Roussy fait remettre les plans des arènes à l'empereur pendant son séjour à Compiègne. En mars, l'empereur, il s'agit de Napoléon III, bien sûr. En mars 1867, une lettre d'information est adressée à toutes les sociétés savantes de France. Les membres du comité usent de leur influence avec succès. On essaie de faire venir l'empereur, sans succès cette fois-ci. Il faut dire que l'entêtement de Peigné de la Cour, qui le rencontre à Compiègne pour identifier une sculpture, ne réussit pas à convaincre le souverain. Peigné de la Cour voulait avoir raison et, même contre l'empereur, n'entendait pas céder. C'était une mauvaise chose pour la Société d'Histoire et d'Archéologie. La Société française d'archéologie tient, le 31 juillet 1866, la 33e session de son congrès annuel dans la grande salle de Saint-Vincent, Saint-Vincent de Senlis, le lycée d'aujourd'hui, en présence de M. Arcisse de Caumont, archéologue. Arcisse de Caumont était fondateur, en 1834, de la Société française d'archéologie, et il en était toujours le directeur. Et autre présence, celle du comte Doré, sous-préfet de Senlis. Je ne résiste pas à vous lire cette phrase du compte-rendu de l'époque. Une foule d'élites et des dames que la sévérité des discussions n'avait pas effrayées occupaient les places qui leur avaient été préparées. N'écoutez pas, mesdames. Sous la conduite de l'abbé Magne, président du comité archéologique de Senlis, les congressistes visitent les arènes sous la pluie. Le quart des arènes est alors dégagé. La soirée se poursuit dans le cloître de Saint-Vincent avec 150 couverts. Et plus tard, sur l'invitation impromptue du sous-préfet dans les salons de la sous-préfecture. Les membres de la Société française d'archéologie, eux, reviendront en 1877 à Senlis pour un nouveau congrès, sous la présidence cette fois du duc d'Aumale, fraîchement rentré en France, et en présence de l'évêque de Senlis, Beauvais et Noyon, Mgr Gilgoux. Ce congrès se tient dans l'ancien évêché, cette fois à l'étage, aujourd'hui le musée d'art et d'archéologie. Les participants sont fort nombreux et le compte-rendu des séances et des visites est publié par la Société française d'archéologie l'année suivante, avec un retentissement national donc. En 1867, la moitié de l'amphithéâtre est déjà mise au jour. Les fouilles vont se poursuivre pendant de très nombreuses années. Elles alimentent et animent les réunions du comité. À chaque instant, celui-ci forme des demandes de subventions au niveau de la ville, du conseil général ou des ministères. Il ouvre également des souscriptions toujours généreusement suivies auprès des membres pour poursuivre les travaux. Il organise une loterie, la première en 1869, autorisée par arrêté préfectoral, puis d'autres suivront. Il faut payer les ouvriers et l'évacuation des terres. Au début, la ville se charge de 500 mètres cubes qu'elle distribue aux habitants. On prie les ouvriers de rapporter contre récompense les objets dignes d'intérêt qu'ils trouveraient. Inutile de vous dire qu'on ne ramène pas grand-chose. Le but est de découvrir le monument au plus vite, on ne fait pas d'analyse stratigraphique comme on le ferait aujourd'hui. Pas de dégagement couche après couche avec analyse des résidus et analyse des étages. Et on a tort. Les archéologues de l'époque pensaient que le remblai de la fosse était récent et sans intérêt. Ils y voyaient surtout la décharge de terre venue des fossés creusés devant les remparts de Senlis en 1544. On pense aujourd'hui que le pourtour du monument a été arasé sous le Premier Empire et a servi à combler la cavea, c'est-à-dire la fosse des arènes. Les témoins archéologiques antiques devaient donc s'y trouver. Et en fait, ils devaient se trouver assez proche du sol, puisque on a arasé et que la partie la plus ancienne de la dernière rangée de gradins s'est donc retrouvée au-dessus du trou. On ne l'a pas su. On recueille néanmoins une grande quantité de fragments de poterie, de monnaies de bronze, d'ossements, de débris métalliques et d'éléments d'architecture. Le tout, y compris quelques rares objets comme un cachet d'oculiste. Cachet d'oculiste, c'est une petite pierre très joliment façonnée sur laquelle était gravée l'ordonnance de l'oculiste. Ce cachet d'oculiste ira enrichir le musée de la Société, puis plus tard le musée de Senlis, où vous pouvez le voir aujourd'hui. Les objets les plus marquants et les monnaies sont dessinés et publiés dans les mémoires de la Société. Les trouvailles archéologiques alimentent le musée de la Société, qui devient bientôt un musée régional, adossé à une bibliothèque et à des archives qui sont enrichies par la générosité des membres. Le musée sera cédé à la ville de Senlis en 1952 et il est constitué de ce fonds à l'origine du musée d'art et d'archéologie actuel. Cette période de dégagement se poursuivra jusqu'en 1889 avec de nombreuses vicissitudes et difficultés de toute nature. Deux hivers très difficiles, entraînement des glissements des terres, on a des écoulements d'eau, on a des difficultés à consolider les murs qui sont découverts. Quand vous découvrez un mur trop longtemps enseveli, les ravinements sont fatals aux joints des murs. De grosses intempéries, des plaintes du voisinage. La guerre de 1870 a des conséquences désastreuses avec la destruction des clôtures, la dégradation des talus, le vandalisme, le pillage et l'éparpillement des fragments sculptés. On a perdu ainsi la cohérence d'un certain nombre de pièces qui avaient été dégagées côte à côte. En 1877, puis 1879, René de Maricourt entreprend des démarches, sans succès, auprès du musée de Saint-Germain-en-Laye pour exécuter un plan-relief qui aurait dû être exposé à l'exposition universelle. Les arènes seront tout de même classées monuments historiques en septembre 1880. Dans les années 1880, le comité archéologique se préoccupe de ménager une sortie des arènes vers la ville de Senlis, c'est-à-dire vers l'est. L'accès se faisait jusqu'alors par le nord et la route de Chantilly. C'est pas un accès archéologique ni naturel. Le déblaiement également, ce qui avait occasionné une saignée involontaire au nord-est dans les gradins. Et cette empreinte est toujours visible aujourd'hui. On ne peut pas non plus reprocher aux archéologues de l'époque de ne pas avoir su avant le dégagement quelle était la superficie de l'amphithéâtre. Un autre projet, plus ancien, de sortie par la porte ouest, vers la rue de la Fontaine des Reines, ou l'allée des Arènes aujourd'hui, n'avait pas abouti. C'est dommage parce qu'il aurait eu l'avantage, outre de découvrir cette sortie, de rattraper la différence d'altitude et de pouvoir évacuer les terres plus facilement. Le comité, pour réaliser son projet, donc projet de sortie vers la ville, dut acheter diverses parcelles de terrain et parfois réaliser des échanges. Il réussit enfin à acquérir deux terrains de M. Frédéric Hion et de la veuve Leroux pour ménager une issue vers la porte de Creil. À ce moment-là, Félix Vernois, l'inventeur des arènes, ou le père des arènes, comme on le nomme, meurt le 9 mai 1888. Très impliqué dans la vie municipale et président de la Société d'horticulture, il est sincèrement regretté. Son souvenir va demeurer par décision du conseil municipal et en accord avec le comité archéologique. Pour lui rendre hommage, les deux institutions décident qu'une nouvelle avenue, partant du boulevard Pasteur, au droit de la rue de la Contrescarpe, traversant la place de Creil, puis la promenade municipale, jusqu'à l'entrée orientale des arènes, serait créée et portera son nom. Cette nouvelle voie est l'occasion de dégager enfin l'entrée est des arènes et de la planter d'arbres. La clé donc de cette nouvelle entrée est confiée à M. Paradis, maître d'hôtel, place de Creil. Le projet d'aménagement des terrains acquis en jardin d'agrément n'est pas mené à bien. On avait même fait réaliser un dessin aquarellé en 1885. et les terrains seront loués finalement à usage de potager, comme ils le sont toujours aujourd'hui. Le chemin d'accès reprend dans sa dernière partie, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de l'entrée de l'édifice, le tracé antique qui venait de la ville. Les années 1900 connaissent l'âge d'or de la carte postale et des dizaines de vues différentes des arènes seront prises, publiées et commercialisées. Vous pouvez les trouver aujourd'hui soit sur le site de la Société d'Histoire, soit sur le site de la base Séraphine de la Bibliothèque municipale de Senlis, soit sur les sites commerciaux que vous connaissez bien. En 1912, le comité fait poser la clôture et la grille que nous connaissons, et les arènes ont à peu près leur physionomie actuelle. Seul regret, le terrain qui aurait permis de dégager la sortie ouest de l'édifice ne sera jamais acquis. La Société d'Histoire assure toujours l'entretien, la préservation et l'étude du monument. Si les publications ne sont plus aussi nombreuses aujourd'hui qu'au temps de la découverte, il faut cependant mentionner les travaux de Jean-Pierre Adam. En mai 1987, Jean-Pierre Adam présente les arènes de Senlis dans un numéro spécial de la revue « Dossiers d'histoire et d'archéologie ». Et deux ans plus tard, il signe une nouvelle brochure de présentation éditée par notre société et toujours disponible. Signalons aussi l'article récent d'Hervé Sueur, publié dans la revue archéologique de Picardie en 2005, « Sondage dans l'issue occidentale de l'édifice de spectacle antique de Senlis ».